Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième chronique du Pays d'Art et d'Histoire Midi-Quercy, présentée par le PETR du Pays Midi-Quercy et financée par les fonds LEADER. Je m'appelle Amandine Le Gall, je suis l'animatrice de l'architecture et du patrimoine de ce Pays d'Art et d'Histoire. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'eau, et plus particulièrement de patrimoine bâti lié à l'eau. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de l'eau ? Eh bien parce que la thématique de l'eau, c'est le fil rouge choisi par le Pays d'Art et d'Histoire Midi-Quercy pour plusieurs années, choisi d'être exploré sous divers aspects afin de comprendre cette ressource que l'on sait plus que jamais fragile. L'eau, elle est omniprésente en Midi-Quercy sous toutes ses formes, puisque, vous le savez, le territoire est traversé d'est en ouest par la rivière Aveyron, qui façonne le paysage. On a des méandres, des vallées, des plaines, des gorges bien connues. Cette rivière, c'est aussi un lien entre les habitants, qui livre aujourd'hui un patrimoine important, des moulins, des puits, des lavoirs ou des ponts. Et cette eau permet aussi de comprendre des phénomènes sociétaux, comme par exemple l'installation de populations, les coutumes, la vie quotidienne d'une époque qui est passée. Et à travers cette thématique, eh bien, le Pays d'Art et d'Histoire s'attelle à découvrir et faire découvrir tout ce patrimoine qui, bien souvent, est méconnu. Alors, le patrimoine bâti lié à l'eau, il constitue un témoignage fascinant entre l'interaction séculaire entre l'homme et son environnement, et aussi de comment l'homme a su s'adapter à cet environnement. Il est aussi l'expression de l'interaction entre l'homme et les ressources, puisque ces ressources ont façonné nos sociétés et nos environnements depuis des millénaires. À travers les âges, l'eau a joué un rôle qui est crucial dans le développement des civilisations, que ce soit les sources d'approvisionnement, les moyens de transport ou encore le développement économique, et aussi les éléments culturels et symboliques. Et du coup, on a un vaste éventail de structures architecturales qui voient le jour, mêlant à la fois fonctionnalité et esthétique, pour façonner du coup un paysage urbain qui est unique, et aussi dans les campagnes. Et ces structures, elles sont témoins de la façon dont les communautés ont su aussi tirer parti de cette ressource précieuse, puisque l'eau a toujours été convoitée. Donc par exemple, on a les ponts qui permettent de comprendre aussi comment les territoires étaient connectés, puisque souvent l'eau servait de frontière, donc ça permettait de connecter des territoires qui étaient isolés. On a ces ponts qui permettent aussi d'avoir des paysages, puisqu'ils permettent d'avoir une vue particulière sur la rivière qu'on n'a pas forcément quand on est sur les berges. On a aussi les canaux qui jouent un rôle crucial dans le transport des marchandises, des personnes, qui permettent aussi le développement des villes. On a aussi les fontaines qui, elles, pour le coup, transcendent l'aspect utilitaire pour devenir de vraies œuvres d'art. Souvent emblématique des villes, hein. Quand on parle d'une ville, on pense aussi à son fontaine. Par exemple, la fontaine du Touron à Caussade est quand même un monument emblématique et qui évoque aussi donc à la fois l'importance culturelle et symbolique de l'eau. Ces fontaines, c'était aussi des points de rencontre sociaux et elles permettaient aussi de refléter l'esthétique de l'époque en incarnant un style architectural particulier. L'industrialisation a également laissé sa marque sur ce patrimoine bâti avec des anciens moulins, des usines, des entrepôts qui ont ensuite pu être transformés en d'autres espaces. Et ces bâtiments rappellent l'évolution des méthodes de production et aussi l'adaptation de l'architecture aux besoins économiques qui changent en permanence. Il est intéressant de voir l'importance de ce patrimoine, ses différentes manifestations à travers le territoire par des exemples marquants. Et son influence continue sur la manière dont nous, habitants et ou visiteurs du territoire, nous percevons et utilisons l'eau dans notre environnement bâti. Du coup, le patrimoine bâti à l'eau, il transcende aussi les frontières géographiques et temporelles pour refléter la façon dont l'eau a toujours été au cœur de l'histoire, de la culture et du développement du territoire ou du pays, du monde en fait. Ces structures et ces aménagements continuent aussi de nous rappeler l'importance de préserver et de valoriser les ressources en eau, tout en célébrant un petit peu l'héritage architectural qu'elles ont engendré. Alors voyons un peu plus près ce qui se passe plus particulièrement en Midi-Quercy avec un petit peu de mise en contexte, ça fait jamais de mal. Donc l'Aveyron, c'est une rivière qui prend sa source dans le département de l'Aveyron, à Sévérac-le-Château plus exactement, et qui mesure pas moins de 290 km de long. Elle est un affluent du Tarn où elle se jette aux alentours de la Française, donc dans le Tarn-et-Garonne, et du coup est un sous-affluent de la Garonne. Entre-temps, eh bien, elle traverse nombre de villes et villages, 63 exactement, et a notamment creusé entre Saint-Antonin et Montricou des gorges, qui est un paysage incontournable sur le territoire que l'on connaît bien. Cette rivière a un régime qui est très irrégulier, c'est-à-dire qu'en été, quand il y a peu de précipitations, son régime et son débit d'eau peut tomber très bas, alors que lors d'hivers pluvieux, il peut être très important avec des eaux qui sont très rapides, qui montent très rapidement et qui peuvent provoquer des crues catastrophiques. On connaît très bien celle de 1930 ou plus récemment celle de 2021 qui ont été aussi très importantes. Pour illustrer cette présence de l'eau et ce patrimoine bâti lié à l'eau en Midi-Quercy, j'ai choisi de vous parler de plusieurs exemples marquants du territoire. Et le premier, c'est parler d'un moulin, puisqu'évidemment, quand on parle de bâti lié à l'eau, on pense forcément au moulin. Et un des moulins emblématiques, moulin à eau emblématique du pays Midi-Quercy, se situe sur la commune d'Albias. Le moulin d'Albias, on le voit quand on traverse le pont routier qui traverse l'Aveyron. C'est un monument qui est imposant, qui enjambe la rivière et qui vraiment marque le paysage. Alors, les moulins à eau sont les plus anciens. Ils apparaissent dès l'Antiquité, quand le moulin à vent, lui, apparaît au cours du Moyen-Âge. Il connaît un fort développement au Moyen-Âge et fait souvent partie de ce qu'on appelle les banalités. Les banalités, c'était dans le système féodal des installations techniques que le seigneur entretient et met à disposition de ses sujets moyennant une redevance qu'on appelle le ban. C'était souvent le four, le pressoir ou le moulin par exemple. Alors, les moulins hydrauliques sont très rentables, mais ils sont aussi très vulnérables. Et effectivement, s'il y a de la sécheresse, eh bien, il y a un manque d'eau, donc ils peuvent moins bien fonctionner. Les crues sont également un problème puisque ça peut aussi participer à détruire les infrastructures. Donc voilà, il y a des avantages et il y a des inconvénients, bien sûr. Alors, ce moulin, il est essentiel puisque, évidemment, il faut moudre le grain, produire de la farine, puisque l'alimentation des populations en dépend. Le pain reste, pendant très longtemps, l'alimentation principale, l'aliment principal des repas des Français. Et du coup, ces moulins, ils servent à ça, à faire de la farine, mais pas que. Ils peuvent aussi produire de l'huile, ils peuvent produire du sucre, du sel, des textiles, grâce à ce qu'on appelle des moulins à foulon. Ils ont aussi des usages industriels, par exemple l'huile pour l'éclairage, la scierie du bois, le broyage de minerais ou encore la production de papier. C'est quelque chose qu'on voit assez couramment. Il peut aussi jouer un rôle déterminant dans des opérations de drainage et d'irrigation. Et enfin, plus récemment, les turbines des moulins hydrauliques ont permis aussi de produire de l'électricité. Donc un usage multiple, ou des usages multiples même. Donc pour parler plus particulièrement du moulin d'Albias, il appartient à une vague de construction ou de reconstruction que connaissent les vallées de l'Aveyron et du Tarn durant la seconde moitié du XVIIIe siècle. En effet, la vallée de l'Aveyron est très fertile. Elle fournit des céréales de très bonne qualité qu'on appelle le minot, enfin qui produit une farine blanche qu'on appelle le minot. Et c'est de là que vient le terme minoterie que l'on voit souvent et qui correspond en fait à l'industrie des moulins et de la farine. Cette farine, elle est de très bonne qualité et elle est exportée de Bordeaux vers les Antilles, l'Amérique et la Corse. Donc il y a vraiment déjà une exportation qui est importante. Donc on sait que l'autorisation de construire ce moulin, elle est délivrée en 1770. Et donc on a un bâtiment qui est rectangulaire, en briques cuites, sur 5 niveaux. Donc c'est un bâtiment qui est très haut, très imposant. Et en dessous, sur son soubassement, on voit des grandes arches, des arcs plein cintre qui permettent donc de faire s'écouler l'eau et d'actionner ensuite les turbines. Ce moulin, il est très joli visuellement. Il s'intègre très bien dans le paysage par sa beauté esthétique. Il y a quelques décors aussi sur sa façade, des frises, des corniches. Et on a une grande inscription sur le bâtiment qui indique B. Merly et compagnie, qui était donc la compagnie en fait à laquelle appartenait ce moulin. Donc tout au long du 19e siècle, l'équipement des moulins va se perfectionner avec le renouvellement de différentes machines, les turbines sont perfectionnées, etc. Et au début du 20e siècle, le pain est toujours l'aliment de référence. Il faut savoir que on consomme en moyenne 530 grammes de pain par jour et par personne, ce qui est énorme. Eh bien, le moulin d'Albias va connaître son plein essor économique. en produisant beaucoup de farine. Et il sera ensuite transformé en microcentrale électrique. Aujourd'hui, le moulin d'Albias, ce sont des logements saisonniers, des locations en fait. Donc on a parlé de l'eau industrie, de l'eau et l'industrie. Et un des autres usages importants de l'eau, je l'ai évoqué rapidement en introduction, c'est l'eau comme une frontière. Effectivement, l'eau a souvent servi de frontière entre des territoires qui pouvaient être rivaux ou ennemis, donc ça permettait d'éviter aussi des liens trop importants. Et quand les ponts sont arrivés, effectivement, ça a permis de connecter ces territoires. Et un des ponts, pour moi, les plus emblématiques du territoire, que on ne connaît pas forcément parce qu'il est un petit peu caché dans la végétation, c'est le pont du Vert à Molière. Le pont du Vert à Molière, il est situé en contrebas de la Bastide, au bord du ruisseau du Petit Lambousse, et il est souvent appelé le pont romain. Alors, on n'a aucune preuve de son existence à l'époque des Romains. C'est une tradition orale qui nous est revenue. Ce pont, il est situé sur le tracé de l'ancienne route royale qui reliait Paris à Toulouse et qui passait par Cahors. Donc c'était une voie de circulation très importante. Et donc la tradition orale attribue la construction de cet ouvrage aux Romains, mais aucune information fiable ne permet d'attester une origine aussi lointaine, même si une occupation humaine est attestée durant l'Antiquité à Saint-Artémie, qui est un des hameaux de Molière. L'arche la plus ancienne de ce pont est construite entre 1160 et 1220, donc ça reste un pont qui est très ancien, mais l'appellation pont romain reste une légende, pour l'instant, du moins. Mais pour l'instant, non, même pas, parce que, en fait, il a été très étudié par Christian Darle, qui est architecte et archéologue, et grâce à la datation carbone 14, la plus ancienne des arches date du XIIe siècle. Donc, a priori, c'est un pont médiéval et pas un pont romain. Donc, ce pont, en fait, il est antérieur à la fondation de la Bastide de Molière. Ça veut dire qu'il était déjà là avant la création du bourg. Donc, ça prouve aussi que cette partie du Bas-Quercy était déjà très riche et que cette voie de circulation était déjà très importante. Donc ce pont, aujourd'hui, il est en partie détruit. Il manque deux arches sur les cinq qui constituaient son état final. Il est envahi de la végétation, on ne peut plus circuler dessus. Les abords sont un peu compliqués. Pourquoi ? Parce que le ruisseau a subi des crues qui étaient très importantes, qui ont emporté une partie des constructions. Et puis parce qu'il y a eu quelques erreurs de construction qui ont fragilisé aussi la structure lorsqu'il a été reconstruit. Puisque ce pont, il a été reconstruit trois fois. Il a été construit une première fois. Donc à la fin du XIIe siècle, il y avait une seule arche unique qui traversait le ruisseau. Ensuite, il y a une deuxième campagne de construction qui n'est pas datée. On ne sait pas de quand elle date. Et enfin, il y a la troisième et dernière campagne de construction qui correspond à l'état visible du pont qui daterait du XVIIe siècle. Donc c'est un pont qui est très important. Son tablier, donc la structure sur laquelle on marche, mesure 5 mètres de large. Et on pense que lorsqu'il était entier, il faisait 30 mètres de long. Donc c'est vraiment un pont qui était très imposant. Un très beau pont maçonné en briques avec quelques pierres qui, malheureusement, pour l'instant, n'est pas au mieux de sa forme, on va dire, mais la commune est en train d'engager aussi un processus de valorisation de ce patrimoine-là, puisque c'est quand même un monument emblématique de la commune de Molière. Donc, l'eau industrie, l'eau frontière et l'eau et la vie quotidienne. Effectivement, quand on parle de l'eau, on ne peut pas la dissocier de la vie d'antan, de nos sociétés passées. Et pour parler de ça, le mieux c'est de parler des lavoirs, qui sont quand même aussi dans nos campagnes un édifice emblématique que l'on trouve dans quasiment toutes les communes. Le lavoir représente la vie quotidienne, plus particulièrement des femmes, puisque c'était les femmes exclusivement qui faisaient la lessive. Et donc, à l'époque, dans les campagnes, on se rendait au lavoir deux fois par an, une fois avant l'hiver, une fois avant l'été, pour laver les draps, les chemises, tout le linge de maison. Souvent, on le faisait le jeudi, puisque les enfants n'avaient pas école, donc ça permettait aussi qu'ils viennent aider dans cette grande tâche ménagère. Et donc, avant l'arrivée des lavoirs, en fait, les femmes faisaient la lessive souvent à même le ruisseau ou la rivière. Et puis, en fait, au siècle des Lumières, on comprend le lien entre l'apparition des maladies et l'hygiène, en fait, aussi des corps et du corps des corps, qu'on appelle, qui est le linge de maison. Et donc, on va commencer à réfléchir sur cette question de créer des aménagements dédiés aussi à cette hygiène pour pouvoir limiter la propagation des maladies. Et donc en 1849, il y a une grande épidémie de choléra en France qui va être assez importante. Et donc en 1851, juste après, l'Assemblée législative va voter un crédit pour l'équipement des villes et villages, de ce qu'on appelle alors des maisons de l'eau, dédiées au lavage du linge en fait. Et ces maisons de l'eau deviennent ensuite des lavoirs. Donc toutes les communes quasiment vont être équipées de lavoirs et ça va permettre aux femmes et aux enfants du coup de pouvoir faire des grandes lessives générales. Alors on parle souvent des commérages qu'il y avait dans ces lavoirs où les femmes pouvaient parler un petit peu des affaires de tout le monde, mais en fait on s'aperçoit que ce n'est pas que ça, il y en avait bien sûr, mais que c'était aussi l'occasion pour elle d'échapper à la tutelle patriarcale des hommes, puisque vraiment il n'y avait pas d'hommes ces jours de lessive, et qu'elle pouvait aussi s'échanger des conseils sur les normes d'hygiène ou sur les aspects domestiques et pratiques de la maison en fait. Donc c'était un vrai lieu de sociabilité pour ces femmes qui souvent étaient rompues aux tâches ménagères et devaient rester à la maison, éduquer les enfants, etc. À l'époque, les femmes ne travaillaient pas forcément, si ce n'est dans les champs, pour aider leur mari. Alors, ces lavoirs sont très intéressants puisqu'ils étaient des équipements publics collectifs, et ça nous questionne aussi sur l'évolution de cette activité de la lessive qui finalement s'est déplacée de l'espace public vers l'espace privé avec la modernisation des foyers et avec l'apparition du lave-linge. On a un exemple très intéressant de lavoir sur le territoire, c'est le lavoir de Nègrepelisse. Il est intéressant parce que sa structure est métallique. En fait, il ressemble un petit peu à une halle, un peu comme la halle de Varennes, en fait, avec une toiture portée par une grande charpente métallique qui permet de couvrir les bassins en béton. Le lavoir de Nègrepelisse, il se situe à l'entrée de la ville. Quand vous arrivez de Montauban, vous avez la place du Ras, qu'on appelle, et en fait, il est en contrebas sur le bord du ruisseau de Longuezègue qui l'alimente. Donc, c'est un édifice qui est très beau et qui a en plus été restauré, donc vraiment il se marie bien dans le paysage, et c'est un lieu qui sert aussi toujours de sociabilité puisque les jeunes y vont passer des moments où on peut y aller faire un pique-nique au bord de l'eau, et les bassins sont toujours alimentés. Ils sont pas très propres, mais ils sont toujours alimentés. Donc c'est un lavoir qui date de la fin du 19e siècle, donc aux alentours des années 1890. Et donc on a deux grands bassins, un bassin pour le lavage, un bassin pour le rinçage. Il était prévu pour accueillir 16 laveuses en simultané, avec évidemment des règles. Il fallait que les laveuses soient séparées de tant de centimètres, que l'eau soit renouvelée une journée par semaine pour pouvoir avoir une eau la plus pure possible, etc. Donc vraiment, il y avait des vraies normes d'hygiène et de réglementation sur ce lavoir. Par exemple, les femmes qui n'habitaient pas à Nègrepelisse devaient payer pour venir utiliser le lavoir. Donc c'était vraiment tout un système qui était très important pour la ville. Et qui a servi pendant assez longtemps. En plus, il est construit avec des matériaux qui sont issus du territoire, puisque les pierres de taille, le calcaire provient des carrières de Bruniquel, la brique provient de la briqueterie de Saint-Étienne de Tulmont qui n'existe plus aujourd'hui, et ensuite donc on a ces bassins en béton et cette charpente en fer qui est quand même assez remarquable. Le lavoir de Caylus est aussi un des autres lavoirs du territoire à bénéficier d'une structure métallique, ce qui était finalement assez rare. Dans les petites communes, les lavoirs sont souvent des édifices assez simples avec des structures ou pas de toiture, juste un bassin en béton ou une structure en bois, une charpente en bois standard. Donc voilà un petit peu pour ce qui est la vie quotidienne et les lavoirs. Et évidemment, on ne peut pas parler de l'eau sans parler de son rôle sur nous autres êtres humains, en parlant de l'approvisionnement en eau, puisque c'est clairement la ressource vitale dont on a tous besoin. Pour parler de l'approvisionnement en eau, on peut prendre l'exemple très particulier de Mouillac, donc sur le Cos, puisque sur le Cos, l'approvisionnement en eau était assez compliqué. Souvent, l'alimentation en eau s'effectuait par des sources qui étaient souvent éloignées des habitations. Et sur le Causse, donc, l'eau est rare et les puits ne se rencontrent que là où la nappe phréatique était facile à atteindre, donc moins profonde. Et c'est pour ça que souvent les hameaux étaient un petit peu loin des points d'eau. En fait, on construisait les points d'eau où on pouvait surtout. Cette alimentation en eau, elle est faite à l'échelle individuelle par des citernes ou des puits qui permettent de recueillir les eaux retenues. Et souvent, on aménage un petit peu avec astuces des constructions un petit peu intéressantes. Il peut y avoir des abreuvoirs pour les animaux, des puits, des fontaines. Ça dépend un petit peu de où on se situe. Ça dépend aussi de l'accessibilité de l'eau. L'eau, elle est la richesse naturelle la plus précieuse des Causses du Quercy. Et c'était une richesse qui était très convoitée, mais dans le même temps, elle était aussi une ressource partagée et gérée par tous comme un bien commun. Donc on avait un petit peu cette dualité où elle appartenait à tout le monde, mais en même temps, on voulait quand même garder un petit peu la mainmise dessus. Sur Mouillac, sur la commune de Mouillac, on a la particularité d'avoir beaucoup de puits, de mares, de fontaines, tout simplement parce que la ressource en eau est facilement accessible car elle est peu profonde. Donc du coup, on pouvait y avoir accès assez facilement. Et donc, on trouve différents types de fontaines, notamment quatre groupes. On a des fontaines et des puits communaux, puisqu'en fait, les consuls qui géraient la commune devaient gérer l'eau en construisant sur chaque hameau de la commune un puits ou une fontaine. La plupart du temps, c'est des fontaines qui servaient à nourrir et à abreuver les animaux. Ensuite, on avait les puits privés avec un droit d'usage public, c'est-à-dire un puits public qui se situait sur une propriété privée. Donc, on était obligé de créer une servitude de passage pour que tout le monde puisse continuer à utiliser le puits. Ensuite, on avait les puits groupés avec droit d'usage réservé à un groupe. Donc là, on avait deux types de groupes. Soit c'était un puits privé qui était partagé entre plusieurs voisins. Donc là, on avait souvent des accès multiples pour que chacun puisse y accéder facilement. Ou sinon, on avait des puits privés réservés à une famille. Et enfin, le dernier groupe, c'est les puits privés à usage individuel. C'est la majorité des édifices, en fait. Et souvent, on s'aperçoit que, ben, comme je le disais tout à l'heure, ces puits sont assez éloignés des habitations. Et à Mouillac, on le voit bien, des fois, il y a 3 ou 4 puits qui sont construits les uns à côté des autres, mais chacun de ces puits appartient à des propriétaires différents. Donc ça permettait aussi, je pense, de se retrouver quand on allait puiser l'eau au puits et de discuter un petit peu avec ses voisins. L'avantage qu'on a sur ces puits, c'est qu'ils ont été restaurés par l'APIC, l'Association pour la promotion de l'identité des Causses du Quercy, qui a mené des chantiers de restauration et qui continue à valoriser ce patrimoine assez particulier qu'on connaît finalement assez peu et qu'on soupçonne pas forcément. Mais du coup, c'est intéressant d'avoir aussi des gens qui se démènent pour valoriser ce patrimoine-là. Donc je vais conclure rapidement. Il est évident que l'eau, elle a joué un rôle fondamental dans la formation et l'évolution de nos sociétés. C'est ce que je disais en introduction. Parce que nos ancêtres ont su exploiter les ressources aquatiques pour façonner des habitats innovants qui tenaient compte aussi de ce besoin en eau. On a eu aussi des systèmes de transport sophistiqués et des infrastructures qui ont su perdurer dans le temps et qu'on retrouve toujours aujourd'hui. L'eau, c'est une ressource vitale, certes, mais elle a aussi été une source d'inspiration pour l'architecture et l'urbanisme. Et les édifices et les espaces construits en harmonie avec cette eau reflètent aussi l'ingéniosité humaine, la capacité d'adaptation et le respect de la nature. Et ça, c'est aussi très important. Du coup, on célèbre cet héritage du patrimoine bâti à l'eau, mais il faut aussi reconnaître les défis actuels auxquels nous sommes confrontés, notamment le changement climatique, l'urbanisation rapide, la surexploitation des ressources en eau, et donc de faire aussi tout ce qu'il faut pour que tout ça soit mené en cohérence avec, de façon raisonnable pour préserver à la fois l'architecture et à la fois la ressource en eau en tant que telle. Donc l'eau, elle est incontrôlable, elle peut causer la mort, mais elle est surtout un bien précieux, nécessaire et indispensable à la vie. Merci d'avoir été avec nous pour cette 3e chronique du Pays d'Art et d'Histoire. J'espère que vous aurez appris des choses intéressantes. Toutes les chroniques sont à retrouver en podcast sur le site cfmradio.fr. À bientôt.